Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, un troisième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Les hostilités déclenchées par le programme nucléaire iranien font des victimes dans les deux pays. Au moins 128 morts en Iran, au moins 13 en Israël. En Iran, l'armée israélienne vit surtout des sites militaires considérés comme stratégiques, mais aussi des installations pétrolières. Emmanuel Macron est en visite au Groenland, immense territoire convoité par Donald Trump. Son projet d'annexion est critiqué par le président français, venu exprimer la solidarité de l'Europe. En France, Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur. L'ancien président rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer dans l'affaire des écoutes. Aux 24 heures du Mans Auto, l'écurie Ferrari signe sa troisième victoire d'affilée dans la plus célèbre des courses d'endurance. Israéliens et Iraniens donc continuent de s'affronter au troisième jour d'un conflit qui a commencé vendredi avec l'attaque massive d'Israël. Parmi les derniers faits marquants, les avions de combat israéliens ont bombardé des sites sensibles et des dépôts de carburant dans plusieurs villes d'Iran. L'armée israélienne a appelé les Iraniens à évacuer les zones à proximité d'installations militaires. Elle a aussi indiqué qu'elle avait frappé 80 objectifs à Téhéran dans des raids nocturnes ayant mobilisé une cinquantaine d'avions. En riposte à ces frappes, l'Iran a lancé des série de tirs de missiles sur le centre et le nord d'Israël, mais l'armée israélienne indique que le niveau d'alerte dans le pays a été abaissé après l'interception de la plupart des missiles ennemis. En dépit de ces inquiétudes, la société israélienne fait bloc pour soutenir l'opération de son armée. Écoutez les explications d'un spécialiste, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Il était l'invité du journal de la mi-journée.
De manière générale, par rapport au conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza, avec la question des otages, où là, effectivement, les opinions sont relativement divisées, là, il y a plutôt unanimité. Parce que personne ignore en Israël, hein, toute tendance politique confondue, que l'Iran était sur le point de mettre au point donc une arme nucléaire dont on sait bien qu'elle aurait visé Israël tôt ou tard. De ce point de vue-là, il y a un très large consensus, mais qui, bien sûr, oblige tous les Israéliens à prendre les mesures de sécurité nécessaires et, en gros, à se tourner vers leur abri. On comprend bien qu'on est dans une longue durée. Mais je dirais que l'argument, vous savez, sur la dimension personnelle, il fait ça pour rester au pouvoir, etc. Alors, bien sûr que s'il réussit dans cette opération, il sera conforté dans son pouvoir. Mais là, personne ne doute que l'ennemi iranien n'est pas un ennemi que Netanyahou a inventé de toutes pièces pour justifier une nouvelle opération militaire.
Denis Charbit répondait aux questions de Charlotte Hydrac dans RFI Midi. En ce qui concerne les bilans en vies humaines, l'Iran fait état de 128 morts pour les journées de vendredi et de samedi. Côté israélien, on déplore au moins 13 morts depuis le début de la confrontation. Il est le premier chef d'État étranger à mettre le pied sur ce territoire. Emmanuel Macron est arrivé au Groenland, territoire grand comme 4 fois la France et couvert à 80% de glace, rattaché au Danemark. Il est convoité par Donald Trump, qui rêve en particulier de mettre la main sur les métaux rares du Groenland. Le président français est porteur d'un message de solidarité, Muriel Paradon.
Emmanuel Macron se veut le porte-voix des Européens qui disent non à la prédation de Donald Trump. Le président américain a menacé à plusieurs reprises d'annexer le Groenland, territoire autonome du Danemark, riche en ressources minières et situé dans une zone stratégique. Il faut défendre sa souveraineté et apporter le soutien de l'Europe, selon l'Élysée. Alors, au cours de sa visite, Emmanuel Macron ira avec le Premier ministre groenlandais et la Première ministre danoise à bord d'une frégate pour discuter des enjeux de sécurité dans l'Arctique. L'autre thématique forte sera la lutte contre le réchauffement climatique. Le président français devrait survoler un glacier en hélicoptère, alors que la fonte des glaces au Groenland s'accélère dangereusement et menace, avec la hausse du niveau des mers, une grande partie de la planète.
Et après son séjour au Groenland, Emmanuel Macron se rendra dans la foulée au sommet du G7 au Canada, sommet qui devrait être dominé par les dossiers brûlants du moment, à commencer, Muriel, par le Moyen-Orient.
Oui, le Canada qui préside ce G7 avait dressé dans sa liste de priorités la sécurité mondiale et il sera donc certainement question du conflit entre Israël et l'Iran. Plusieurs dirigeants qui seront présents au sommet ont appelé à une désescalade. La guerre en Ukraine est aussi au programme. Quel soutien apporter au président Volodymyr Zelensky qui est invité au Canada. L'attitude de Donald Trump sera déterminante sur ces deux dossiers et les points de friction ne devraient pas manquer sur d'autres sujets aussi comme les tarifs douaniers puisque l'économie, la sécurité énergétique et la transition numérique seront des thématiques fortes de ce sommet du G7.
Sommet que l'on suivra avec vous, Muriel Paradon. J'ajoute que lors de sa visite à Nuuk au Groenland, Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il espérait un retour au calme dans les prochaines heures en Iran et en Israël, ainsi qu'une reprise des discussions sur le nucléaire. De son côté, Donald Trump s'est dit ouvert à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans ce conflit au Moyen-Orient. Nouvelle catastrophe aérienne en Inde. 7 personnes ont été tuées dans l'accident d'un hélicoptère qui transportait des pèlerins hindous dans les montagnes de l'Himalaya. Quant aux obsèques des victimes de l'accident du Boeing d'Air India, jeudi à Ahmedabad, elles devaient débuter ce dimanche. Avec au moins 279 morts, c'est la pire catastrophe aérienne en Inde depuis 2014. Direction maintenant la Corée du Sud où la Gay Pride a rassemblé des dizaines de milliers de personnes hier à Séoul. Mais les droits des personnes LGBT restent menacés dans la quatrième économie d'Asie. Reportage de Camille Ruiz.
Musique, char et fanfare, la marche des fiertés défile aux couleurs de l'arc-en-ciel près d'Uljiro, au cœur de Séoul. Mingyu tient un drapeau multicolore dans la main. L'ingénieur de 26 ans est venu avec un ami.
Mes parents, qui sont chrétiens et très pratiquants, sont en ce moment même au rassemblement contre la marche des fiertés.
En Corée du Sud, il n'existe pas de texte qui protège les communautés LGBT. Izzy Yang, militant et drag queen, alerte sur la nécessité d'une loi anti-discrimination, la priorité sur l'agenda des activistes.
Parfois, des manifestants chrétiens s'allongent sous nos chars et nous font du chantage au suicide. Une année, un prêtre a même jeté des excréments humains aux personnes qui défilaient sur les chars de la parade.
D'après Amnesty International, depuis 2007, une dizaine de tentatives pour faire passer un projet de loi ont échoué, car les groupes chrétiens ultra-conservateurs, très influents dans le pays, s'y sont opposés. Et le nouveau gouvernement démocrate n'a pas manifesté l'envie de s'emparer de la question. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En France, c'est son avocat qui l'a fait savoir. Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur et il rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer dans l'affaire des écoutes. L'ancien président s'est vu retirer la plus haute distinction française, sanction rarissime pour un ex-chef de l'État. Jusqu'à maintenant, il n'y avait eu que le maréchal Pétain. Elle a été prononcée suite à sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption. Une importante mission scientifique débute aujourd'hui même dans le nord-est de l'océan Atlantique. Une vingtaine de chercheurs vont passer un mois en mer pour cartographier les fûts des récipients remplis de déchets radioactifs jetés volontairement en mer. Il y en aurait près de 200 000 de très faible activité à moyenne activité. Cette mission de repérage prévoit aussi de procéder à des prélèvements pour mieux comprendre leurs effets sur l'environnement sous-marin. Juliette Pietraszewski.
Pour exploiter les plaines abyssales de l'Atlantique nord-est à plus de 4000 mètres de profondeur, l'équipe de scientifiques va pouvoir compter sur un robot sonar sous-marin appelé Ulix. Sa mission à lui, survoler les zones d'immersion des déchets radioactifs à 70 mètres d'altitude et les photographier. Patrick Chardon, ingénieur de recherche au laboratoire de physique de Clermont-Auvergne, est co-responsable du projet.
Il est capable d'identifier un objet de 5 à 10 cm en étant à 70 mètres au-dessus. Ceci nous permettra, du coup, dans un deuxième temps, d'optimiser les points de prélèvement, de pouvoir sélectionner les zones d'amas de fûts, de pouvoir se rapprocher au mieux des phénomènes qu'on cherche à évaluer.
Ces déchets radioactifs immergés pendant 40 ans sont variés. Boîtes à gants, tuyaux contaminés, bouts d'échantillons. Avec les prélèvements qui seront effectués lors de la mission, Patrick Chardon espère élargir les connaissances des scientifiques sur les conséquences de ces détritus radioactifs.
La problématique du fond des océans et surtout de l'océan profond est que ce sont des écosystèmes qui sont particulièrement mal connus et encore moins bien connus en présence de fûts de déchets nucléaires ou de déchets radioactifs comme c'est le cas par rapport à la zone que nous partons explorer. Donc l'objectif est à la fois d'accumuler des connaissances sur cet écosystème profond et essayer d'évaluer les effets de déchets radioactifs globalement sur l'écosystème.
Les mesures et les prélèvements de la mission indiqueront les sites à étudier plus dans le détail lors d'une prochaine campagne des scientifiques.
C'était Juliette Pietraszewski. Enfin, en 24 heures du Mans, l'écurie Ferrari remporte une troisième victoire d'affilée dans ce qui est la plus célèbre des courses d'endurance auto au monde. La 93e édition des 24 heures du Mans a été indécise jusqu'au bout. Très bonne journée sur RFI. À 18 heures, le prochain journal avec Nicolas Brousse. Mais tout de suite, en sol majeur.